7h48 minutes, c'est pas chaud, même si on est sous le soleil. C'est un beau matin, mais c'est un matin frais. Moins 23, le refroidissement éolien nous place à moins 34 degrés. Moins 14 sera le maximum aujourd'hui, toujours sous le soleil. Ça se réchauffe pour demain vendredi. On termine la semaine là, plus doux, là, moins 6. Il y aura un 2 cm de neige. La neige qui cesse mi-journée à peu près, et ensuite samedi. Pour commencer le mois de février, plein soleil à moins 13 comme maximum.
La circulation présentée par la grande liquidation d'hiver chez Sale. Obtenez jusqu'à 50% de rabais sur une vaste sélection de produits de la saison en cours et antérieure. Sale, la plus grande destination plein air 100% québécoise.
Circulation, ça ressemble à quoi, Jeff?
Circulation, c'est très lourd, Laurentien, direction l'autoroute Laurentienne, direction sud. Ça refoule jusqu'à Lac-Beauport et ça, jusqu'à la jonction avec Félix-Leclerc. Félix-Leclerc, direction ouest, c'est également lourd à compter de Beau-Royal et ça, jusqu'à Laurentienne. Même principe pour Henri IV, direction sud. Là, ça va pratiquement jusqu'à l'avenue des Montagnes, donc vraiment dépasser la route Sainte-Geneviève pour justement la congestion routière jusqu'à Félix-Leclerc. Par contre, sur les ponts, ça va bien. Ça circule bien présentement sur Pont-Pierre-Laporte. Congestionné, par contre, sur le pont de Québec en direction nord. Mais les approches, je dirais que ça va beaucoup mieux qu'à l'habitude. Là, évidemment, des ralentissements de la congestion. Mais les gens traversent beaucoup plus rapidement qu'à l'habitude.
Merci beaucoup, Jeff. Si vous voyez quoi que ce soit, évidemment, si vous pouvez texter en toute sécurité, 418-971-1021. Et nous, on passe l'information aux auditeurs et auditrices de Rage Against le matin. Notre chroniqueuse politique, Jacinthe Varel est avec nous en studio. Jacinthe, comment ça va? Bon matin.
Bonjour.
Merci d'être là, content de te voir.
Merci de m'inviter encore.
J'avais hâte quand même de jaser politique fédérale, course à la chefferie du Parti libéral du Canada, parce que Jacinthe, selon certains médias, peut-être certains sondages, avec Mark Carney dans le portrait, peut-être comme futur chef des libéraux, au fédéral, on les voit peut-être nez à nez avec les conservateurs, peut-être même les dépasser dans les intentions de vote. T'en penses quoi, toi?
Quelle stratégie, hein? On les pensait à terre, le Parti libéral du Canada, les acteurs, les stratèges du Parti libéral du Canada.
On était presque sur le compte de 10, hein, dans un combat de boxe, ouais. Quand l'arbitre compte, là. Ouais. 7, 8, ils commencent à se relever, finalement.
Oui, c'est vrai que ça serait le fun que quelqu'un mette en image, là, en style dessin animé, ce qui est en train de se produire. Ça pourrait être bien agréable parce qu'effectivement... ils font preuve soit de chance ou soit qu'il y avait des stratèges qui voyaient venir le coup, qui voyaient venir cette fameuse stratégie d'annoncer Mark Carney comme le grand sauveur. Ça semble fonctionner. C'est quand même particulier parce qu'il se présente toujours comme un outsider, alors que, bon... Quand on lit, il y a des analystes qui le révèlent que finalement, il est stratège au sein du gouvernement de Justin Trudeau depuis longtemps et que finalement, même s'il n'est pas élu, il fait partie de cette équipe depuis longtemps. Il endosse les politiques de Justin Trudeau. Il a même été conseiller.
Oui, il y a qui l'emporte, c'est sûr.
Absolument.
Conseiller budgétaire aussi, il faut le mentionner, là, oui, avec 60 milliards de déficit.
Conseiller économique, ça veut dire ça. Il peut pas. Si on ne croit pas que, finalement, Chrystia Freeland, quand elle a démissionné de son poste de ministre des Finances puis elle n'a pas accepté de présenter la mise à jour budgétaire elle-même, si on ne croit pas que c'est suffisant ce qu'elle a fait pour se distancer, prendre une distance et démontrer qu'elle est vraiment différente de ce gouvernement-là, je ne vois pas comment on peut penser que Mark Carney, lui, c'est tout aussi... C'est mieux, finalement. Il n'y a rien de mieux dans la posture de Mark Carney, puisque lui, il n'a même pas démissionné, il n'a même pas dit « j'endosse plus du tout ce qui se passe, cette mise à jour économique ». Bon, c'est quand même Chrystia Freeland qui était responsable de ce document-là, mais il reste que Mark Carney est le conseiller économique de Justin Trudeau. Alors, c'est franchement pas du tout une autre game, mais ça semble fonctionner de dire ça comme ça. C'est sûr aussi qu'il était... gouverneur de la Banque du Canada, gouverneur de la Banque aussi en Angleterre. Donc, ça laisse un aura là, de grand professionnalisme et de... C'est pas tout le monde qui a des parcours comme ça.
Non, hein, il y a une certaine réputation quand même.
Il y a un beau CV. Ouais. Il y a un extraordinaire CV, un extraordinaire parcours professionnel. Donc, c'est sûr que ça le rend très crédible en matière de finances, d'économie aussi. Mais ça veut pas dire que parce qu'on a eu des postes d'envergure comme ça qu'on a nécessairement... une idéologie plus responsable face aux finances publiques. Là. Donc, mais bon, c'est des CV impressionnants.
Je regarde Mark Carney, je regarde les sondages, je regarde comment surtout les médias le traitent, puis j'ai pas le choix de faire le parallèle avec Kamala Harris. On est-tu en train de faire la même erreur du côté de nos médias traditionnels avec Mark Carney qu'on a fait avec Kamala Harris, c'est-à-dire penser qu'il y a vraiment une chance de battre Pierre Poilievre? On pensait qu'Harris allait battre Trump, elle s'est fait clencher à plate couture.
C'est une question super intéressante parce que quand je voyais que Chrystia Freeland allait s'en venir dans la course, je me disais, ils vont faire avec Chrystia Freeland ce qui s'est passé avec Kamala Harris. Ils vont dire, bon, ben voici une femme qui va venir
c'est
chercher
vrai.
Le vote des femmes et on va faire exactement comme Kamala Harris. Alors, j'avais déjà établi le parallèle il y a quelques mois, mais je me suis fait prendre au piège.
On veut Mark!
C'est finalement Mark Carney. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances à faire. C'est peut-être ça qui a inspiré les stratèges libéraux. Mm-hmm. Pour justement, je vous disais, il était presque à terre, puis finalement, il se relève tranquillement. Ben, ils ont peut-être vu ce qui se passait au sud de la frontière dans la campagne électorale présidentielle et ils se sont dit, ben, il y a moyen quand même de montrer, d'arriver avec un grand sauveur. Bon, on voit ce que ça a donné. Il n'a quand même pas réussi à. Kamala Harris n'a pas remporté les élections. Est-ce que ça fera la même chose ici? Mais certainement que là, ce qu'on vise, c'est si c'est pas de prendre le pouvoir pour le Parti libéral du Canada, c'est au moins de devenir l'opposition officielle, parce que là, si on devient pas l'opposition officielle, c'est toute une débarque.
Ouais.
Alors, on doit probablement miser sur l'importance pour Mark Carney d'aller chercher l'opposition officielle. Et pour ça, ben, il va falloir lui laisser du temps. Alors, est-ce qu'on s'enligne vers des élections au printemps ou à l'automne? Vous entendez et vous voyez, comme moi, dans les médias, que Mark Carney semble, et le Parti libéral du Canada semble finalement ouvrir la discussion avec le NPD. Si on ouvre la discussion avec le NPD pour possiblement Jack Metzin qui disait que finalement c'était possible qu'il ne renverse pas le gouvernement, mm-hmm. Il commence à ouvrir la porte à une possible entente. Alors on en a parlé là, Jeff et moi, tu sais bien que on semble envisager l'option de dire mm-hmm. Faisons connaître Mark Carney comme premier ministre du Canada au printemps jusqu'à l'automne et ça nous permettra là, de minimiser les pertes.
Je tiens à le mentionner parce que c'est toi qui le répètes souvent, Mark Carney, qui serait premier ministre du Canada non élu.
Non élu.
C'est toi qui le mentionnes souvent. Ça m'a resté dans la tête. Je veux ton opinion là-dessus par rapport aux médias aussi. Jacinthe, le show de boucan des médias, est-ce que c'est un show de boucan? Dans le sens, j'aimais le parallèle avec Kamala Harris mm-hmm. aussi. Pourquoi, chez certains médias, ce show de boucan-là, est-ce que c'est pour les clics? Est-ce que c'est pour la lecture de nos journaux ou regarder nos bulletins de nouvelles? C'est-tu un parti pris? C'est-tu réel? Peut-être que c'est pas un show de boucan. Puis il y a une réelle course là, entre, éventuellement, peut-être, Mark Carney et Poilievre. T'en penses quoi?
Effectivement, c'est particulier à quel point c'est le chouchou des médias. J'en ai déjà parlé dans d'autres médias aussi. Ça n'avait pas fait l'affaire. J'avais vu des faces crispées. Parce que quand je parle, je lis beaucoup les visages qui m'écoutent. Je vous le dis, là, à la maison, là, on est à la radio, mais il y a des images aussi qui vont être disponibles. Mais quand je parle à mes interlocuteurs, peu importe sur quelle plateforme je suis, à la télé aussi, c'est la même chose. Des fois, je vois les visages, puis je vois les muscles faciaux se crisper. Je me dis, oh, ils n'aiment pas ce que je suis en train de faire. Mais je l'ai nommé comme le chouchou des médias, Mark Carney. Je persiste et signe, je trouve que c'est le chouchou des médias. Pourquoi? Bien, ça fait l'affaire de plusieurs lobbies, ça fait l'affaire de plusieurs acteurs sur la scène économique puis sur la scène médiatique aussi. On sait que Pierre Poilievre aura une tendance à décentraliser le pouvoir et à redonner aux provinces beaucoup de pouvoir. Ça va faire plaisir à Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta. Ça va faire plaisir à François Legault, premier ministre du Québec aussi, notamment tous les premiers ministres des provinces, mais il y en a qui...
Doug Ford va dire oui aussi.
Oui, absolument. Donc, il y en a pour qui c'est super important, qui militent encore plus fort. Là, j'ai nommé, c'est vrai, Doug Ford aussi, mais tous les premiers ministres des provinces se contenteront et seront très heureux de savoir qu'il n'y aura plus d'empiètement du pouvoir sur les provinces par un gouvernement conservateur. Alors, ça fait peur, par exemple, au mouvement souverainiste mm-hmm. ici au Québec. Parce que là, si on a, si on n'est plus capable de blâmer Ottawa autant qu'avant, si on n'est pas capable de démontrer que Ottawa empiète sur nos pouvoirs et nous nuit dans nos décisions, s'il nous laisse notre autonomie, eh bien, ça nuit au mouvement souverainiste. Alors, tous les médias qui ont un penchant souverainiste, mm-hmm. parce qu'ils ont des penchants, il y a des lignes éditoriales dans les médias. Alors, eh bien, ça c'est sûr que on préfère voir un Mark Carney arriver au pouvoir qui s'inscrit dans la même idéologie que Justin Trudeau, donc très interventionniste, l'État très présent, l'État fédéral très présent dans mm-hmm. nos vies. Et puis, y a aussi Pierre Poilievre qui souhaite s'attaquer au financement de CBC. Donc, et non pas Radio-Canada, je tiens à le préciser, mais Pierre Poilievre tient à revoir le financement ou même, bien sûr, supprimer beaucoup de financement mm-hmm. à CBC. À quelle hauteur, on ne le sait pas encore, mais tout le groupe anglophone de Radio-Canada, donc il ne veut pas toucher au secteur francophone de Radio-Canada, mais le CBC, la portion anglophone, il souhaite revoir les procédures budgétaires. Donc là, ça ne fait pas l'affaire non plus de cette branche médiatique. Alors, c'est sûr que quand en politique, on a des gens qui viennent bousculer l'ordre établi, tous ceux qui ont du pouvoir dans cet ordre établi, tous ceux qui ont de l'influence dans cet ordre établi,
se défendent
sans qu'on vienne leur marcher sur les pieds, sans qu'on vienne finalement menacer ouais. cet ordre établi ou ce bout de pouvoir qu'ils ont dans l'influence médiatique ou dans l'influence politique. Et bien, ils montent aux barricades. Et en ce moment, Mark Carney, c'est un politicien qui tend à... favoriser l'ordre établi. Alors, c'est à nous comme électeurs de voir clair et de dire, est-ce qu'on aime un politicien qui vient pas trop changer les choses, pas trop bousculer les choses, qui veut plaire au plus grand nombre, ou on souhaite justement avoir des politiciens qui veulent bousculer l'ordre établi et qui veulent vraiment changer les choses.
Au niveau de nos médias, on a tendance de plus en plus à ne pas montrer les deux côtés de la médaille. T'sais, cette fameuse objectivité-là qu'on est censé avoir journalistique, puis là, que je pense à nos médias traditionnels, là, je vais penser à Radio-Canada, je vais penser au groupe Québécois. On a tendance même à traiter l'information avec un biais. T'sais. Ah, moi, je suis pro-tramway, fait que je vais te plugger dans mon reportage que c'est donc bien beau puis c'est donc bien fin, le tramway. On se tire-tu dans le pied en faisant ça? Parce que, tu sais, on parle, on disait, hey, ça n'a pas d'allure, méta, vérification des faits qui se font plus, mais dans nos médias traditionnels à l'heure actuelle, il y a toujours un biais, il n'y a pas tant de vérification de faits. Je me trompe-tu en pensant ça?
C'est vrai que à vouloir favoriser une lecture,
une idéologie, une
lecture plutôt qu'une autre, on force ceux qui veulent avoir tous les angles de vue ou tous les côtés de la médaille à aller voir ailleurs. Puis quand ailleurs, c'est aussi forcé d'un côté, à un moment donné, les gens se sont éloignés des plateformes qui forcent un côté plus qu'un autre et ils vont piger un peu n'importe où les informations. Et c'est là qu'il y a un risque, effectivement, il y a la belle probabilité de tomber enfin sur des nouvelles qui vont couvrir d'autres angles ou tous les angles. Mais c'est rare, tous les angles. Peu importe, c'est souvent un angle éditorial, une lecture, une grille d'analyse qui est plus ou moins large. Il y en a des un peu plus larges, mais il reste qu'on est souvent du côté gauche, du côté droit.
Et on a cette crainte-là de la droite politique, là, clairement, là, dans nos médias traditionnels ici au Québec.
Oui, mais on est en train de se nuire parce que finalement, de toute façon, on aspire tous, peu importe notre idéologie, on aspire tous au mieux-être.
Absolument.
Au bien-être commun, au bien-être du plus grand nombre. Ça c'est universel. Ouais. C'est juste dans la manière d'articuler ça. C'est quoi le mieux-être universel ou c'est quoi le bien-être universel des gens de la population de Québec à l'échelle de Québec? Là, on ne s'entend pas sur c'est quoi une ville qui rayonne. On ne s'entend pas dans le comment y arriver, mais on s'entend tous qu'on veut que Québec, par exemple, comme capitale du Québec, rayonne davantage, soit plus prospère, puis qu'il n'y ait personne dans les rues, qu'il n'y ait pas de itinérance, puis que nos banques alimentaires n'est pas l'achalandage croissant qu'on connaît, par mm-hmm. exemple.
Hey, d'ailleurs, en terminant, je veux faire du pouce un petit peu pardon là-dessus, Jacinthe-Ève. Je sais que je vais jouer le jeu des si, OK? Mais si Mark Carney gagne la course à la chefferie, si en étant le chef du Parti libéral du Canada, il y a une course plus serrée aux prochaines élections, est-ce que ça, c'est bon ou mauvais pour le Canada? D'après moi, côté démocratique, c'est bon. Mais on entend souvent parler que, face à Trump, la situation aux États-Unis, ça serait bon d'avoir un gouvernement majoritaire, un gouvernement fort. Qu'est-ce qui est mieux en ce moment? Qu'il y ait une bonne course aux élections libéraux-conservateurs ou que, finalement, les conservateurs, mettons, gagnent plus haut la main puis on soit plus en pouvoir de négociation avec, entre autres, les États-Unis?
C'est une bonne question. C'est vrai que si on a réellement une course solide, serrée, avec des bons affrontements sur des enjeux pertinents pour le Canada, pas des petits scandales à gauche, à droite qui éclatent, puis des petites attaques vicieuses là, sur la réputation ou sur du traitage de nom à gauche, à droite. Mais si on y va sur les politiques de fond, ça peut être vraiment intéressant si on a vraiment une lutte, une vraie lutte, là. Pas une lutte cosmétique, pas une lutte organisée, pas une lutte arrangée, une bonne lutte. Ça serait vraiment intéressant, mais que ça finisse par un chaos. Ça, ça serait extraordinaire.
Okay.
Parce que ça, ça donnerait une force versus les États-Unis, un KO, que ça soit de Poilievre ou Carney.
Ben exactement. Ça nous permettrait d'avoir de la force par rapport à l'administration Trump. Ça nous permettrait de pouvoir négocier en toute confiance. Ça permettrait d'enlever des munitions à Donald Trump pour dire, de toute façon, regardez quel clown vous avez au pouvoir. Ça a passé ses fesses, votre affaire. Ou de toute façon, ça va vous prendre l'autre parti, un parti d'opposition. Qui va venir faire une coalition avec vous. Il va falloir que vous ayez des ententes. Alors, on ne peut pas s'affaiblir comme ça. Et de toute façon, à l'échelle canadienne, on serait content, on serait mieux servi comme électeur aussi de savoir que tous les enjeux de fond ont été débattus. Il y a vraiment eu une lutte sur des enjeux sérieux pour le Canada. On a vraiment vu clairement les positions du Parti libéral, les positions du Parti conservateur. Et on a tranché, on a dit « Notre homme, c'est celui-là ». Et à ce moment-là, c'est pour ça que je parle de chaos. Ouais. Parce que ça nous permettrait, comme électeurs aussi, d'avoir le sentiment qu'on n'avait pas le choix entre deux options sensiblement pareilles ou deux options qui se sont appochées là, pour faire un show avec des petites claques en arrière de la tête, mais que finalement, personne n'a trop saigné puis personne n'a trop eu à faire un jeu stratégique plus fort, plus solide.
Puis pour continuer l'analogie, on s'en va à la décision des juges, puis c'est partagé. On veut un KO. J'adore cette réponse-là.
Ah ouais, moi aussi.
Notre chroniqueuse politique, Jacinthe Eve Harel, merci pour ça ce matin.
Merci, bonne journée froide.
Merci, à toi aussi. Habille-toi chaudement. Courte pause à Rage Against le matin. Ensuite, entre autres, on a des textos à ce sujet-là. Non, on n'a pas encore donné l'indice du jour pour le concours Touchdown dans ton salon. Et est-ce que vous avez comme projet d'acheter ou vendre votre maison, votre résidence en 2025. Avez-vous des questions? 88-971-1021 parce qu'on parle après la pause avec le courtier immobilier Étienne Lessard. Bougez pas.